Pourquoi tu fais toujours trop de choses à la fois?
Non, vraiment, t'es trop émotive, hein. Tu te fais un monde pour rien.
Oh là là, t'es trop susceptible, tu prends tout à cœur, mais on s'en fout de ça.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Adeline Attia. Merci d'être là et je te laisse te présenter. Bonjour.
Bonjour Mélodie, la bien nommée, Mélodie à la voici mélodique et radiophonique, merci de m'inviter dans ton podcast. Écoute, donc moi je suis Adeline Attia et je suis, en fait je dirige, j'ai fondé un espace de coworking inclusif qui s'appelle Bonnie and Smile et j'ai aussi un cabinet d'études qui s'appelle UB Trends, donc voilà, je suis entrepreneur.
On a entendu juste avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et en quoi tu te considères comme une atypique du cerveau ?
Écoute, je t'avoue que je l'ai découvert récemment et parce qu'on finit par en parler et que je me suis reconnue dans pas mal de témoignages. Et en fait, je pense que ça remonte à mon enfance. J'étais assez incomprise par mon entourage et plus par ma famille, bizarrement, qu'à l'école. C'est-à-dire que j'avais un peu un sentiment d'étrangeté, de ne pas être comme les autres, de ne pas avoir la preuve que les autres étaient comme moi. Et ça me perturbait, mais bon, de façon diffuse. Et comme je dessinais beaucoup quand j'étais petite, on me félicitait. Je trouvais ça très étrange aussi parce que moi, je trouvais ça normal de dessiner, de peindre ou d'écrire des poèmes. Je trouvais ça normal. Donc, c'était déjà, je pense, une espèce de fuite dans un monde imaginaire qui me faisait plaisir. J'aimais beaucoup rêver, imaginer des histoires assez fantastiques que je racontais à voix haute. Et ensuite, je me racontais ces histoires et j'embarquais mes cousins, mes amis dans ces histoires. Et en fait, j'avais beaucoup de plaisir à voir qu'ils croyaient à mes histoires. Et que ça faisait des petits films, quoi, des petites pièces de théâtre. Voilà. Et puis après, bon, bah, en grandissant, j'ai été vraiment nulle en maths. Alors ça, par contre, c'était très, très dur à vivre. J'étais catégorisée et rejetée par mes profs. Il faut dire aussi que c'était une période au XXe siècle, hein, je parle du XXe siècle, période où il fallait faire C, qui était donc vraiment qui est devenu S, mais c'était les classes scientifiques. Il fallait faire C, sinon on était vraiment moins que rien. Donc en fait, il y a une espèce de cascade de mépris de la part de mes copains de classe et petits copains même qui disaient mais quoi, tu vas pas faire une terminale littéraire. J'étais en C jusqu'à la première, hein. Et en physique c'était affreux. La prof me traitait de nullos. Elle me disait allez, à la niche.
Oui, c'est violent.
C'était quand même assez violent. Tout ça parce que j'arrivais pas au tableau à faire des exercices de physique. Donc c'était un sentiment d'échec. Et quant au choix de mes études, parce que moi j'étais vraiment littéraire, donc j'ai finalement décidé d'aller en terminale A à l'époque, et ça a été super, parce que là j'étais vraiment la meilleure. J'ai passé de nullos à première de la classe en un an, ça c'est quand même une expérience. Et après j'ai choisi donc de faire prépa littéraire, Hippocagne, Cagne, et donc j'ai bien aimé. J'ai quelque part dans une case qui devait correspondre, mais pas à ce point. Et là, quand en Cagne on m'a demandé, alors moi je voulais pas du tout faire normal sup, j'avais pas du tout ce que je voulais faire vraiment. Je savais que j'aimais juste les lettres. Et là, tout d'un coup, dans une composition écrite de 3 heures autour de 3 vers de Mallarmé, je me suis dit, là, c'est trop. C'est pas possible. Ça va pas le faire non plus. Donc, je me suis levée et je suis partie en plein milieu d'un examen. Et en fait, évidemment, mes parents n'ont absolument pas compris. J'étais juste à la fin, quoi, le dernier trimestre, etc. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je réfléchisse. Et j'étais très mal à cette époque. C'était vraiment une période difficile. Et à nouveau, l'injonction de tu devrais faire une école de commerce ou quelque chose là. Donc, j'ai trouvé une autre école qui s'appelait le CELSA. Et donc, j'ai fait. Il y avait un concours à l'époque, il y a toujours d'ailleurs, et il y avait une épreuve de maths. Et je me souviens très bien de ce moment, j'avais un petit copain matheux à l'époque qui m'a dit mais jamais tu réussiras l'épreuve de statistique et tout ça. Je dis bon, mais pourquoi? Et en fait, j'ai dit mais là cette fois-ci, j'ai dit mais merde, je vous emmerde tous, je vais le faire. Et j'ai réussi. Donc en fait, ça a été une première prise de conscience que finalement, je les emmerdais tous, quoi, et que en fait, il suffit de choisir, quoi, de vraiment le vouloir. Et après, voilà. Bon, après, ça s'est très bien passé. Et les choses se sont enchaînées. C'est juste que mes parents, mon entourage, comprenait pas trop. Et donc en fait, pour moi, la difficulté, ça a été on voulait m'enfermer dans des cases. Donc l'injonction de choisir entre plusieurs voies possibles, entre plusieurs cases, a toujours été un problème. De même que l'étanchéité entre ces cases. C'est ça, en fait, les sphères, que ce soit culturelle ou médiatique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la porosité des systèmes. C'est justement quand ils sont pas étanches et la diversité.
Et justement, par rapport à ça, le fait de réaliser que tu étais en décalage, est-ce que c'est ça qui t'a permis aussi d'être plus à l'aise actuellement, de mieux comprendre aussi comment tu, toi-même tu fonctionnais ?
Alors, ça a été très long parce qu'en fait, je t'avoue que c'est très récent en fait que j'ai commencé à accepter ça et à le, parce que je l'ai métabolisé. Mais en fait, pendant une vingtaine d'années, j'ai continué à travailler avec des hauts et des bas, mais je veux dire, j'ai en tout cas été très tôt entrepreneur, et ça, je voulais le signaler parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, le salariat, j'étais dans l'agence de pub, mais très jeune, hein. J'ai donc été entrepreneur à l'âge de 27 ans, alors que j'étais enceinte de ma première fille, mon premier enfant, et ça aussi, étrangeté totale, comment elle peut quitter un job où elle gagne super bien sa vie à 27 ans et lâcher tout pour, en plus enceinte, elle n'aura pas les congés maternité et elle crée sa boîte. Bon, ça, vraiment, ça a été évidemment pas du tout compris, mais c'était une émancipation. Et en fait, l'entrepreneuriat m'a vraiment libérée, voilà, de mes carcans. J'ai vraiment perçu ça comme une création, une œuvre créative, en fait, de réconcilier le business et la création. Pour moi, c'était ça. Et donc, c'est une perception progressive, mais assez récente, parce qu'en fait, à l'époque, c'était pas du tout documenté, on parlait pas vraiment de ces sujets. Et le fait de surtout voir que je suis pas la seule à ressentir ça m'a beaucoup aidée. Donc aujourd'hui, avec le recul, je comprends que mes évolutions professionnelles, elles n'ont pas été des ruptures, mais plutôt un parcours de continuité un peu organique, si je peux dire, parce que chaque étape m'a naturellement conduit à la suivante, sans que j'en sois consciente véritablement, mais juste par étape, par escalier. Et en fait, j'ai aimé ça. J'aime les surprises de la vie, les rencontres qui te poussent vers une autre expérience, l'improvisation aussi, qui est un mode d'être pour moi, parce que je fais de l'impro par ailleurs, et ça m'aide. C'est-à-dire que ça me pousse. C'est-à-dire que je vois que c'est pas du tout un défaut d'improviser, ça peut au contraire être une agilité qui me sert dans ma vie professionnelle aussi. Donc en gros, j'ai eu des bifurcations, jamais de rupture radicale, et j'en suis assez contente parce qu'aujourd'hui, on parle effectivement de transition, mais on parle souvent de changements radicaux de vie, et il n'y a pas que le changement radical, ça peut être des mues progressives. Voilà. Donc le fait d'accepter mes différentes facettes, donc tous ces slash, ces variétés, moi, ça m'aide. Et donc, j'ai plus aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, c'est après 30 ans de vie professionnelle, j'ai plus à batailler entre création artistique et business, entre les chiffres et les lettres. J'essaye de composer et d'agir avec, et envers et contre tous. Donc, c'est OK, j'ai eu des obstacles, notamment le fait que les autres aient toujours voulu m'enfermer dans ces fameuses cases. Donc, au début de ma carrière, par exemple, quand j'étais planeur stratégique, on se disait, c'est quoi ce métier d'interface, etc. Et après, les gens m'ont mis dans les études marketing. Bon, je suis restée pas mal d'années en me disant c'était finalement pas mal, mais c'était pas moi qui avais choisi cette case. Et aujourd'hui que j'ai un espace de coworking, on me met dans la case immobilier qui n'est absolument pas ma case. Moi, je suis dans l'immatériel. L'immobilier n'est qu'un heure. Mon métier n'a absolument rien à voir avec l'immobilier. Donc, en fait, voilà, cette sorte de case, c'est quelque chose qui est quand même une longue histoire.
De ce que je comprends, voilà, de ce que tu dis aussi dans le travail, c'est la capacité que tu as eue, que tu as toujours, à savoir t'entourer pour travailler à des personnes en capacité de te comprendre ou d'accepter à minima ton fonctionnement.
Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que peut-être j'ai aussi de l'empathie pour les gens différents, entre guillemets. Je m'entoure aussi assez volontiers de gens qui ont la capacité de ne pas être trop standardisés, normés. Et ça se fait aussi au hasard des rencontres. Mais c'est pas toujours facile non plus, hein. Moi, je pense que quand on marche justement un peu à la diversité, les gens qui ont des super bonnes formations et qui ont des schémas en tête ou des process peuvent trouver difficile peut-être de travailler avec moi. Ça, je reconnais.
Par rapport au travail, justement, au tout début, tu l'as dit en quelques mots, un peu du teasing, mais pour comprendre en fait ce que tu as créé sur le lieu de travail que tu évoquais, de sortir des stéréotypes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, on l'aura bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire concrètement un peu plus sur, au quotidien, en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu fais ?
Comme je viens des études marketing et j'ai toujours interviewé, interrogé les gens en profondeur, parce que c'est du qualitatif que je fais, donc c'est ce métier d'étude des usages, en fait, des besoins des gens qui m'a conduit à observer que, en fait, les gens, dans leur façon de travailler, ils avaient des besoins extrêmement différents et qu'il fallait pas justement faire du Airbnb, entre guillemets, standardisé. Non, mais c'est vrai qu'il y a une manie aujourd'hui de vouloir standardiser les décors. On parle de happiness officer, qui est juste pour moi une absurdité. On peut pas décréter le bonheur au travail. Donc, c'est beaucoup plus profond. Donc, moi, j'ai observé beaucoup les gens au travail, à la fois dans mes études. Et puis après, j'ai moi-même été dans des espaces de coworking différents. Et je me suis aperçue de deux choses. C'est que les gens introvertis, seuls, on leur parlait jamais et qu'ils étaient finalement pas si bien que ça et qu'ils, dans un espace cool, entre guillemets, qu'il fallait peut-être les aider, ces gens-là. Et de l'autre côté, je me suis aperçue que les femmes n'étaient pas non plus adressées de façon très, je dirais, alors le mot n'est pas le bon, mais bienveillante ou cocoonante. Donc je me suis dit, tiens, il y a des publics qui sont quand même pas forcément à l'aise dans le coworking, je dirais, entre guillemets, standardisé. Donc en fait, je me suis intéressée à ces populations, donc les PME et les femmes entrepreneurs, et aussi à la diversité des profils psychologiques. C'est-à-dire que j'ai observé que les introvertis et les extravertis n'interagissaient pas du tout avec leur écosystème de la même façon, et que l'humeur était importante dans un lieu de travail aussi. Donc en fait, tout ça, ça m'a aidée à faire Bonnie and Smile sur l'idée de s'adapter vraiment à la diversité et générationnelle, professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, l'entre-soi est très dangereux et qu'il faut au contraire se frotter à différents métiers, à différentes générations pour à la fois apprendre, s'ouvrir et que généralement, ça marche. Les gens, c'est que vous voyez un cabinet d'avocats, il n'y a que des avocats entre eux, ils ne se parlent pas. Alors que quand tu as des gens qui sont comme nous, enfin chez nous, il y a des, vraiment de 7, mais de, je dirais, 20 à 77 ans, on a un monsieur très âgé qui est très heureux ici aussi. Moi, j'adore voir ces gens qui finalement ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas été là. Et donc, si l'humour aide à entrer en relation avec les gens. Donc, il faut une espèce de second degré acceptable. Et ça, c'est une grande liberté de pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça, c'est parce que je pense qu'il faut incarner les lieux, il faut les aider à entrer en relation, c'est pas automatique. Il y a des gens, comme je l'ai dit déjà, plus timides que d'autres. Donc, comprendre les besoins des usagers, c'est fondamental. Donc, moi, j'ai travaillé en amont sur des personas, c'est vraiment une technique de travail où on s'intéresse aux profils tels qu'on pense qu'ils sont en fonction de leur vie, etc., de leurs besoins. Et puis, finalement, les vraies personnes qui sont là aujourd'hui correspondent, mais quasiment, mais mot pour mot, au personnage que j'avais imaginé avant de créer Bonnie and Smile. Donc, ça me fait plaisir parce qu'en gros, les gens qui nous rejoignent, et finalement, ils viennent chercher ce que j'avais un peu imaginé. Donc, voilà. Et aujourd'hui, l'offre, elle évolue en permanence puisqu'on a dû s'adapter, effectivement, avec le premier confinement, développer une offre digitale. Ensuite, l'aménagement, il est complètement modulable parce que les besoins évoluent sans cesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient avant Covid des grands événements, des séminaires, qui maintenant ont réduit leur voilure en termes d'espace. Après, il leur faut des bureaux comme ci, comme ça. Je veux dire, on est alors là, vraiment, pour l'agilité, c'est 100%. Et je pense que ça donne envie aussi aux gens de travailler comme ça, de façon agile. Et les réseaux féminins qui sont dans notre écosystème sont là aussi pour donner l'exemple, je dirais même aux hommes, de comment on peut à la fois faire du business, être bienveillant et en même temps pas se prendre au sérieux tout en faisant un boulot sérieux.
C'est intéressant, ça fait écho aussi à ce que je peux voir sur la question des atypiques du cerveau dans un environnement de travail et la capacité ou pas de s'adapter pour que chaque personne puisse trouver sa place, puisse être bien et du coup pour travailler dans les meilleures conditions pour être le plus performant ou la plus performante. Donc ça, c'est super intéressant et c'est encore peu adressé à l'heure actuelle. Beau projet, c'est réalisé.
Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas, pour terminer, il y a autre chose que tu souhaiterais partager? Peut-être un conseil pour des personnes qui nous écoutent, comme je fais à chaque fois, qui se posent des questions ou leur entourage?
Par rapport à cette expérience d'atypisme, j'aurais tendance à dire, vu mon grand âge, qu'il faut se faire confiance parce que finalement, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de coach. Alors, il y a des gens très bien, des très bons et très bonnes coachs, mais il y a aussi des gens qui, finalement, n'ont pas forcément la légitimité de l'être. Hein. Je suis désolée, ça peut-être être un peu mal perçu par certains, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au final, c'est quand même la petite voix intérieure qui fera qu'on sautera le pas dans l'entrepreneuriat, mais aussi même un projet artistique. Il y a des conseils qui boostent et il y a d'autres qui cassent. Et ça restera. Il faut vraiment faire attention parce que si on se fait casser successivement par deux ou trois personnes dans la même semaine, ça peut carrément éteindre une énergie qui était quand même là. Donc voilà, moi je pense qu'il faut sortir de son milieu de référence, ne pas cloner et d'aller vers le différent, vers les autres, parce que c'est vraiment de la différence qu'on apprend. Bon, ça, c'est vraiment une expérience personnelle, mais un vrai credo. Je pense qu'il faut garder cette curiosité, cette ouverture, surtout dans ces périodes troublées où on pourrait avoir des tentations de repli.
Merci beaucoup, Adeline, pour ce partage.
Merci à toi.
Et puis, de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.